Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malt, la bière du 12e joueur.
Peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps.
Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact.
Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club, la poutine du soccer.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition du Couscous Piri Piri, se fait avec vous comme d'habitude, et aussi mon compadre Nilton. Bonjour Nilton.
Salut Sofiane, toi ça va bien, j'imagine?
Ça va très bien, ton tweet était excellent hier, CCPP, champion d'Europe, champion d'Afrique.
Waouh, hein, comment t'as fêté ça là? Explique-nous un peu là, comment tu l'as vécu.
Vous voulez vraiment savoir, parce que c'est assez nul.
Et vendre d'abord.
Par rapport à un fan de foot, j'ai vu la première mi-temps. Mon frère Mehdi, mon petit frère Mehdi et mon père. Et ensuite, la deuxième mi-temps, c'était dans la voiture parce que la petite, il fallait qu'elle dorme, c'est sa sieste. Donc, j'ai checké sur Twitter à chaque stop au feu rouge, rapidement, mais de façon non dangereuse. Et j'étais assez stressé parce que je pensais qu'on allait perdre malgré le 1-0. Et voilà, puis j'ai revu la deuxième mi-temps après, mais comme on dit, ce qui compte, c'est qu'on a gagné. Hein, mais c'était pas aussi glamour que les gens disent. J'étais pas au Petit Maghreb. Il y avait beaucoup de gens au Petit Maghreb. J'entends en P9 là. Donc voilà, je sens même qu'il y aura une vidéo dessus là. Je pense qu'il y avait des gars de Copa 90. Je pense qu'ils étaient au Petit Maghreb. Donc je pense qu'il y aura un reportage sur ça. J'ai l'impression. Donc j'ai raté d'avoir ma face dans la caméra là. Donc 1, 2, 3. Donc voilà, on a gagné. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais tu sais quoi, depuis un bout là, honnêtement. À part qu'on a fait la Coupe du Monde en 2010 et en 2014, je pense que à force de couvrir l'impact, pas l'impact bien sûr, de couvrir le foot, là, je suis beaucoup moins émotionnel qu'avant.
Ah oui?
Moins de loin, je suis beaucoup plus.
Même l'Algérie, c'est ta sélection, ça vient chercher des émotions beaucoup plus ancrées que l'impact.
Les matchs de Coupe du Monde, oui.
T'es plus fan qu'observateur, tu sais? Non, c'est pas différent?
Les matchs de Coupe du Monde, oui. La sélection, quand je regarde les jouer, je regarde, ok, ce qui arrive arrive. Je suis devenu beaucoup plus froid. Peut-être que je suis un psychopathe, peut-être que je suis un sociopathe, je sais pas encore. Mais aussi, j'ai l'impression que à l'intérieur, je suis en train de bloquer mes émotions. Donc, je sais pas aussi. Quoique, quand Mahrez a marqué son but contre le Nigeria en coup franc, là, j'ai gueulé comme un fou.
Ah, ça vient de chercher quand même. J'ai pas vu attentivement le match, j'ai vu le but live.
C'était nul.
Le match n'avait pas l'air incroyable.
Il était pas bon, puis honnêtement, le Sénégal aurait pu facilement égaliser. Oui, on va dire que le Sénégal a mal joué. Si tu vois tous les articles et les experts, le Sénégal a déçu, mais honnêtement, oui, l'Algérie a mieux joué durant tout le tournoi, mais en finale, ils n'avaient pas bien joué du tout. Là. Puis oui, le premier but marqué à la troisième minute a totalement changé le match. On peut en parler à Tottenham contre Liverpool. C'est comment un but tôt peut changer la physionomie d'un match. Donc il y a ça à prendre en compte. Mais honnêtement, moi, je suis content, je suis vraiment fier. Pour moi, c'est une vraie étoile. Gagner la CAN en dehors de chez toi, c'est une vraie CAN. Chez toi, c'est trop facile. Avant le VAR et la télé HD et l'Internet. Et puis, donc c'est ça, je suis super content. Honnêtement, une belle équipe. Une belle équipe, là, un bon mélange de joueurs franco-algériens et de formés en France et de joueurs algériens formés en Algérie qui ont formé un beau groupe. Belmadi, un rookie coach en sélection, puis. Il a coaché au Qatar, puis on voit que le mental et la discipline font beaucoup de choses quand tu as des joueurs de talent.
Mais le coach d'Algérie, là, c'est le portrait, l'exemple parfait de tout Algérien dans un parc.
Exactement. Tu vas au parc Quint, au parc Jeanne-Mance,
c'est incroyable.
C'est la même chose.
T-shirt trop tight.
Jogging.
Oh non, je le jure, là, j'ai vu ce personnage 1000 fois dans les terrains de foot. C'est incroyable, vous avez gagné avec, c'est magnifique.
Et oui, born in Paris, raised in Algeria, si on peut dire ça. C'est ça, donc c'est intéressant. Donc j'ai beaucoup aimé là, puis je suis content. Vraiment, je suis soulagé. Comme j'avais un trou, une sorte de trou à l'intérieur de moi, puis qui pendant longtemps j'avais oublié que j'avais ce gap, puis ils m'ont enfin un peu rempli ce petit trou béant. Ça me fait plaisir parce qu'on est enfin un relevant en Afrique. Parce que champion, en tout cas, parce que la relation entre le Maghreb, Je vais parler pour l'Algérie, je connais déjà l'Algérie. Là, entre le Maghreb et l'Algérie et le reste de l'Afrique, c'est assez délicat. Non, c'est assez délicat. Juste pour dire, les Algériens sont africains durant la CAN seulement. I'm just gonna leave it there. Et je suis contre ça, là, moi. En tout cas, on va laisser ça.
Juste comment que Safir Taïda doit se sentir, c'est terrible.
Mais
hein.
Pourquoi tu penses que vous pensez que vous voulez y aller? Parce qu'il savait que le groupe était bon. Il le savait. Il le savait, il n'est pas bête, là. Puis il était déjà dans la sélection pendant un bout, donc il voulait ouais. vraiment y aller. Puis c'est une fierté. Et tu sais, quand tu m'as posé la question, là, c'est qui a remplacé Safir Taïda dans la sélection? Et en fond, je t'avais donné tous les noms milieu de terrain. Parce que je dis, au fait, je n'étais pas sûr. Mais au fond, c'est qu'il a changé de style de jeu. Puis Taïda, il avait plus sa place comment Belmadi voulait jouer. Peut-être sur le banc. Je pense que Taïda savait qu'il allait être sur le banc. Mais sur le banc, c'était entre Abid et Boudaoui. Et Boudaoui, c'est un jeune qui va très très bon. Puis Abid, il va jouer à Nantes, c'est un bon joueur là. Puis, et Taïda a perdu parce qu'il a pris deux joueurs différents que lui sur le banc. Parce qu'il n'a jamais été titulaire. Surtout qu'il n'a pas très bien joué quand il était pris en amical. Il n'était pas mauvais, mais pas assez pour...
C'est ça. Et en club, il s'est retrouvé dans une situation tellement compliquée, là, dans un club sans aucune structure. Donc, il est là. T'sais, on ne sait pas trop c'est quoi son rôle dans cette équipe-là.
Oh my God, on commence déjà. On commence déjà.
Did I say something?
Non, tu n'as rien dit. merci Spreaker de sponsoriser notre sponsor technique pour l'année au Couscous Piri Piri et à tous les podcasts du CAN Football Club. Donc, Spreaker.com, votre plateforme de choix pour enregistrer, distribuer et monétiser vos podcasts. Amenez votre podcast au prochain niveau, Spreaker.com. Et bien sûr, la force du Malte, la bière du deuxième joueur. Vous avez écouté une jingle, ma belle voix, la bière qui coule, la force du Malte, Trois-Rivières, Guy Lafrenière, merci encore. Réseaux sociaux, site web laforcedumalte.com. Trouvez ou achetez de leur bière. Achetez la rusée, achetez l'allemande, achetez toutes les sortes de bières qu'ils ont, les IPA, puis les bières rouges, blondes, etc. C'est excellent, c'est du bon niveau. Donc, grand merci à La Forge du Malte de nous sponsoriser encore une fois. Je le dis pas assez, ça fait chaud au cœur et puis ça nous donne une grosse motivation de continuer. Et bien sûr, merci à tous les Patreons qui continuent de nous supporter sur patreon.com/CANFootballClub. Si vous voulez nous supporter, que ce soit le CCPP ou le CANFC en entier, pour supporter la plateforme, les lumières restent allumées pour la poutine du soccer, podcast, blog, réseaux sociaux, 100% foot, patreon.com/CANFootballClub. C'est important de continuer, on va mettre les liens. Merci de supporter. Supportez-nous par mois, ça nous aide beaucoup. Et sur ce, on va en parler d'un club qui a besoin d'aide, Nilton.
Oui.
L'Impact a perdu 2-1 contre le Colo-Cro de Colombus. Pas de surprise, en théorie.
Pas de surprise?
Non. Pas de surprise, sachant que l'Impact gagne jamais à Columbus, ou quasiment. 2-1, donc... je ne sais même pas qui a marqué. Ah oui, c'est vrai. Josh Williams qui a marqué sur une tête. Zakaria Diallo ensuite sur une autre tête sur corner. Et ensuite ouais. David Akam juste à la rentrée de la deuxième mi-temps. Donc ça résume pas mal ça.
Le match n'est pas si important que ça, dans le fond. Hein.
Mais non, c'est les matchs que tu peux permettre de perdre.
Non, mais dans le sens que cette semaine, on ne parlera pas du match. On va juste parler de la conséquence, de ce que ça, le message. Il y a tellement de stock autour du match.
Mais avant le match, pendant le match, après le match, c'est assez bordélique, c'est vrai. Juste un autre fait saillant, carton rouge de Bakary Sagna à la 55e minute. Donc, pour moi,
personne
n'a
trop chialé là-dessus?
Non, c'est assez clair. C'est assez clair. C'est vraiment... Il n'y a pas de drama sur ça autour de ça. Donc, avant de... Bon, il y a les questions, mais par rapport aux questions, il y a une nouvelle qu'il faut qu'on en parle. Le prévisible est arrivé.
Ouais.
Via TVA Sport, Nick Martino, le club va résilier le contrat de Harry Novillo. Commentaire, Nathan.
God. C'était tellement prévisible. On l'a vu là, dès le début de la saison. On essayait de quoi? On s'est trouvé un trou dans le règlement pour pouvoir s'en débarrasser. Faute de trop, parce qu'on était commis au niveau financier jusqu'à la fin de l'année. Rémi Garde a tenté jusqu'à la toute fin de le récupérer. On le voit aujourd'hui. T'sais, on l'a vu en entrevue, Rémi Garde, il est en colère de façon générale. Et on ne sait pas trop après qui, peut-être même après lui-même, cette colère-là. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir par Novilo, il s'est fait avoir par son entourage, peut-être qu'il a conseillé Novilo. C'est lui qui en paye le prix. Ça a été, toi et moi, on a peut-être été un des rares à pas comprendre ce switch-là de Silva pour Novilo, même si on nous répète toi, à chaque fois que Silva voulait partir, mais tu veux,
mais je me rappelle la vie.
Mais tu veux partir quand tu te sens plus ou moins désiré.
C'est vrai, mais il y a aussi un commentaire de Sam Opiat, je pense dans un article d'Athletic, quelqu'un avait mis une prise d'écran il y a quelques mois, il disait que beaucoup de joueurs, incluant Alejandro Silva, ne voulaient pas être là. Pourquoi il ne voulait pas être là, je ne sais pas. Peut-être c'est l'hypothèse, il n'était pas voulu par Garde, je ne suis pas sûr.
Il était
très critiqué par Garde, Silva de façon publique, là, plus que certains joueurs qui auraient mérité beaucoup plus. Donc oui. Mais regarde, Silva, c'est assumons qu'il ne voulait pas rester, puis c'est fini. Ok, à la limite, c'est correct. C'est juste que... C'était prévisible, on l'a vu quoi. On l'a dit quand. On avait dit tout en février-mars, ok, c'est un joueur, son CV... est vraiment assez suspect pour lui donner un contrat garanti.
Ouais, c'est surtout ça.
Et son type de profil, c'est un joueur que normalement il vient à laisser. Normalement. Mais il est venu à laisser l'an dernier, il est venu passer 2 semaines à Montréal, je pense, au centre avec l'équipe.
Ouais.
Donc je présume que cette essai de 2 semaines était assez. Ok,
mais
parfait.
Moi, ce qui me dérange sur Novilo, c'est le hype qui s'est construit autour de lui. On nous a dit des trucs là, qui...
basés sur rien.
Sur rien, là. Et on l'a vu rapidement que c'était basé sur rien, parce que t'as vraiment été excité par Novilo, tu sais?
Mais non, après 2 matchs, je lui dis, ok, est-ce qu'il est meilleur que Baia et Mathieu Chouinard?
Il va falloir qu'on commence à prendre des notes, puis, tu sais, il y a des leçons à prendre saison après saison. On répète beaucoup d'erreurs dans des analyses de pré-saison. Puis on n'apprend pas. J'espère que c'est la dernière fois qu'on va apprendre. Tout ce qu'on a dit comme conneries sur Vargas a été répété sur Novilo. Puis là, va falloir commencer à comprendre que faire venir des gens ici pour se relancer, c'est un gros taux d'échec possible. Il faut l'assumer, il faut comprendre. Si ce n'est que ça, c'est un problème. Faire venir des inconnus, mais qui fonctionnent et qui sont en train de monter dans leur carrière, c'est nettement plus efficace comme taux de réussite que Novilo. Il est arrivé ici, on nous a dit, là, j'ai même des fois entendu qu'il y avait le potentiel de devenir DP. Il n'est même pas proche.
Non, même pas proche d'être...
Il n'est même pas proche de faire quelque chose sur ce terrain-là.
Regarde, sur son attitude, il aura de la chance, et son éthique de travail, il aura de la chance s'il fait une équipe USL. Son talent, c'est clairement, c'était un talent Ligue 1 potentiel. C'est peut-être un talent Ligue 2 à un moment donné, je ne sais pas. Mais personnellement, il aurait été beaucoup plus intéressant d'être. C'est que ce qui fait mal pour Novilo, c'est un double jeu perdu. Non seulement on a des attentes par rapport à son profil, mais moi je dis je lui donne une chance parce qu'en termes de profil, il fitterait le profil parfait d'être le penchant droit de Piatti. Si tout se passe bien.
À chaque fois qu'on va chercher quelqu'un, c'est ce qu'on répète.
Exactement, parce que naturellement, le gars jouait à droite, disons. Ok, parfait. Et en plus, t'as les attentes qu'on a par rapport à... Okay, on avait Silva, qui était bon. Maintenant, il y avait un sort de délire.
Mais c'est qu'il était bon. Une attitude professionnelle.
Oui, c'était vraiment... Honnêtement, je l'ai dit plusieurs fois, Silva, il reste 2 ans dans la MLS, il est un des meilleurs ailiers de la Ligue, sans aucun doute. En termes de percussion, c'est un ailier box-to-box, si vous voulez. Le gars, il n'arrête pas de courir.
Discipline tactique.
Ah oui, il est vraiment bon. Maintenant, ce qui est arrivé est arrivé. Par rapport à Novilo, 2 scouts différents qui ne sont pas parlés avant de me parler, je pense, m'ont dit la même chose. Grand talent dans la tête, c'est pas ça. Donc moi, j'ai rien dit. Je dis, ok, je vais donner, au joueur une chance. J'ai vu la pré-saison, ah, c'est pas mauvais, quelques matchs, il marque un but, ok, il essaye, il se démène, ok, on va donner du temps, tout le monde a le droit d'avoir une chance. Ouais. À un moment donné, je me dis, ok, mais il fait... C'est un moment, j'étais pas impressionné, je voyais Mathieu Chouinard et Baia, je dis, mais...
C'est pareil, Baia peut faire mieux, il fait déjà mieux en peu de temps.
Malheureusement pour lui, Baia et Mathieu Chouinard existaient, sinon il n'y aurait aucun comparatif. Dans l'effectif même pour avoir quelque chose de mieux. On n'était pas impressionné, mais ne l'est pas Nilton. Tu l'as très bien dit, on était très subjectif et méfiant par rapport à la hyper médiatisation de nos vidéos, alors qu'on n'avait rien sur quoi se baser.
Mais tu sais quoi le problème? C'est qu'il n'y a pas de validation, autant au niveau recrutement que qu'analyse. Je veux dire, au niveau recrutement, c'est clair, là. T'sais, c'est un recrutement basé sur le réseau de Rémi Garde. C'est Rémi Garde qui dit, oui, c'est un super joueur,
ce il a normal.
Changé.
C'est normal.
C'est normal parce qu'on n'a rien d'autre dans le club. Alors, en janvier, on n'a rien d'autre dans le club à part Rémi Garde pour aller chercher. C'est avant Vasily, c'est avant le Duc, puis ils sont... Et encore, le Duc, on ne sait pas trop s'il est impliqué dans le recrutement. Vasily, oui, on sait qu'il est impliqué, mais il est peut-être plus au niveau...
analyse que décision.
Ouais, exact. Mais à l'époque de sa signature, il n'y a que Rémi Garde. Rémi Garde, il a carte blanche, il va le chercher, fine, on lui fait confiance, c'est un homme de foot. Mais il n'y a personne pour valider ce que lui pense. Mm-hmm. C'est son œil. Puis un œil de coach qui est un peu en mode panique parce qu'il doit remplacer, il doit trouver des solutions offensives. Aujourd'hui, on arrive dans la même situation. Un gars comme Novilo est proposé, il doit passer à travers plusieurs filtres. Il doit passer par le filtre de Sabatini, il doit passer par le filtre des nouveaux recruteurs qui sont installés là.
En théorie,
mais j'ose croire que maintenant c'est comme ça.
Ouais, on l'espère. En plus, c'est plus un espoir, là, une prière.
Mais
que...
Je penche vers le oui beaucoup plus. Jamais un Novilo est recruté dans ces conditions-là. Jamais il est recruté. Non. Et si jamais il est recruté, jamais on lui donne ce genre de contrat-là.
Exactement. Sans vouloir répéter ce qu'on a déjà dit 15 000 fois, t'avais des insights sur son salaire potentiel. On l'a vu lorsque la liste a été libérée. J'ai trouvé ça dérangeant.
Oui, la première fois, j'avais mis le tableau, j'avais mis 200 000 et j'avais des échos. Ils disaient, non, Nilton, t'es très, très loin. Ils disaient, ben là, 200 000, il viendra pas. Si c'est pas 200 000, je peux pas croire que c'est en bas de ça. Ils disaient, non, c'est de l'autre côté, là. C'est
Dieu.
Beaucoup plus haut. Puis plus je mettais un chiffre, plus je me disais, non, tu sais, t'es froid, Nilton. Ça n'a aucun sens. Et oui, on défend beaucoup, avec raison, Rémi Garde, parce que ce qu'il y a sur le terrain, c'est difficile de faire mieux. Mais merde, va falloir commencer un jour dire, ben, ce qu'il y a sur le terrain et la situation où on se retrouve aujourd'hui, où on n'a plus de flexibilité pour améliorer le terrain, mais il en est responsable. C'est peut-être pas le coach qui est responsable, mais ça a été le recruteur, Rémi Garde, début de saison, puis l'année passée. Et on le voit, le fait qu'il est déçu par Diallo, puis qu'il l'a mis sur le banc, puis que contre Columbus, il a sorti un peu de sa position de libéro, mais le mettre un peu sur le coup. Et Camacho, la catastrophe de Camacho de l'année passée, qui est en train de se replacer tranquillement, mais toujours pas au niveau de son salaire. Tout ça, ça a été des mouvements initiés à 100% par Rémi Garde. Donc, je veux bien défendre le coach. Mais ça donne qu'il a été aussi responsable.
Ben oui.
Personnel, puis il va falloir qu'il commence à se poser des questions. Puis je pense que les dernières frustrations qu'on voit, tu te rappelles la semaine passée, je t'avais dit, ouais, la conférence de presse, elle m'a dérangé. Je le vois un peu détaché, beaucoup plus que d'habitude. Et cette semaine, c'est une coche de plus, là. Il y a quelque chose.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il est constant avec son caractère, son attitude, son personnel. C'est pas quelque chose de nouveau que Rémi Garde va dire les quatre vérités. C'est un gars qui a tout le temps été direct. Peut-être quelque chose qui va nuire à sa carrière, peut-être de coach, mais il va pas, à part les crises d'angine, il va en général dire vraiment ce qui se passe et ce qu'il pense, de façon systématique. Si on revient à sa conférence de presse de hier soir, quand on perd, ce n'est pas agréable. Ce qui m'agace, ce sont des attitudes, des comportements, des consignes qui ne sont pas respectées. Tout le monde doit faire ses analyses de conscience. Tout le monde fait des erreurs, moi le premier. Je suis un entraîneur qui vient de perdre 4 matchs de suite. Je vais me remettre en question. Donc, il parle bien, il dit les bonnes choses, mais je pense qu'il y croit aussi. On clôt le sujet de Novilo. On savait que c'était une catastrophe à venir. On savait que c'était un risque. On comprend pas le hype et le salaire. On vous a prévenu. Les jeunes sont meilleurs que lui. 1, 2, 3, 4, il est parti. Puis voilà, 8 tours du saut. Désolé, 8 tours du saut. Non, en février, ouais, en mars, je vais prendre le crédit, Nilton.
C'est que dans le fond, il faut être méfiant.
Nilton, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin de validation, ok? On vous l'avait dit. Ok ? On vous l'avait dit. C'était louche. Son CV ne matchait pas du tout ce dont l'Impact avait besoin. Puis Epek Feldermigard sur leur commande de Villot. Dossier est clos. Il est peut-être gentil, il est peut-être sympa. Son portrait était excellent. Mais il était nul avec l'Impact. Point final. C'est fini. Au revoir. Je me sens mal. C'est un être humain. Il a le droit d'exister, il a le droit de vivre. Et pas avec Montréal. Parce que c'était vraiment...
Il peut rester. De toute façon, son condo est payé. Là. Il peut rester encore le final d'été.
Donc, c'est ça. Donc, il y a un gros bif. J'espère que... En tout cas, je te laisse continuer. J'arrête mon rant. La Novilo, c'est clos. On a parlé de ça. On a trop parlé depuis la saison. C'était une perte de temps pour tout le monde.
Mais ce qui va être intéressant à voir, puis à chaque fois, c'est ce que je m'amuse à faire, c'est le prochain club après Montréal. Des fois, ça donne des bonnes indications de ce qui se passe vraiment. Quand on voit habituellement quel est le prochain club d'un ancien joueur de l'Impact de Montréal...
Ça donne une idée où était sa carrière.
Mancuso?
Ouais, Mancuso, il va en Serie A, là.
Oui, c'est ça, ouais. Vargas?
Ça va très bien pour lui.
Ouais, ça va super bien. Edwards? On continue ou on arrête?
Simon? Non. Simon, c'était d'autres circonstances. C'est différent. C'est un cas spécifique. Petrasso?
Oh, God. Il joue à l'attaque. Ouais. On ne parle pas de l'attaque de Trois-Rivières. Il joue devant, là.
Donc, voilà. Okay. Donc, voilà. Puis, ouais. Est-ce qu'on démystifie un peu l'engueulade de Rémy Garde sur Brownie?
Oh, wow, okay. Ça veut tellement dire plein de choses.
C'est du bonbon pour Lilton, c'est du bonbon, genre yes. Il y a du drama et du drama. Bon, Brownie a fait un pressing très haut en deuxième mi-temps, fin de match tout seul. Le gardien a fait le déjou en faisant le pass au défenseur, au milieu qui reculait. Donc Brownie, il vient de faire une course de 20-30 mètres, puis après, ok, je pense qu'il trottinait, puis il marchait.
Il s'est arrêté.
Il s'est arrêté dans la surface de réparation du gardien de Columbus, puis quand ça marchait, je pense. La caméra vire sur le jeu vers le milieu de terrain, puis on entend Rémy Garde qui a pas de gueuler, puis il dit Brownie, reviens. Tu te prends pour qui, toi? Pour qui tu te prends? En lui disant de revenir rapidement vers le milieu de terrain avec ses coéquipiers. Donc c'était assez intense.
En
français, parce qu'il aurait tellement tout compris. Puis c'est ça, il disait pour qui tu te prends Omar. Voilà. Pour qui tu te prends Omar, donc il y a une tension entre Rémy Garde et Omar peut-être, mais en même temps Rémy Garde est frustré. Son équipe perd de 1, il y a un carton rouge, il reste 5 minutes au match. Quand il voit quelqu'un qui trottine alors qu'il vient de rentrer en tant que remplaçant, ça je pense que ça l'emmerde un peu. Moi je trouve que c'est normal. Moi, je trouve que tant mieux que Rémy Garde le fasse, je pense qu'il va le faire pour tout, il le fait pour tout le monde. Il va engueuler tout le monde à différents niveaux.
Habituellement, engueuler. Le couloir le long de sa ligne est dans le trou.
Exactement. Donc voilà. peut-être qu'il va gueuler, il va pas gueuler sur du allo, mais plutôt lui parler en privé. Il va peut-être l'engueuler en privé, mais voilà, il va gérer chaque joueur à sa façon. Donc voilà, c'est tendu du côté de Garde, c'est tendu du côté de l'équipe. 4 défaites de suite. C'est un peu stressant. Le classement, avant de passer aux questions, Nilton, l'Impact est 6e, 30 points. 23 matchs joués. Les Red Bulls et les deux New York ont 2 à 4 matchs de moins joués qu'eux. Toronto FC est à 1 point de l'Impact avec 1 point, un match en moins de joués. En tout cas, l'Impact, c'est le seul club à part Philadelphie au-dessus de la ligne rouge qui a joué 23 matchs. Donc tout le monde va pouvoir rattraper l'Impact dans pas longtemps. Maintenant, est-ce qu'il faut paniquer tout de suite? Comme j'avais dit la semaine dernière, il faut pas, si on panique, peut-être c'est normal, mais il ne faut pas que le collectif s'effrite.
Oui, mais il faut une solide prise de conscience. Là. Tu sais, si on ne panique pas maintenant, il va être trop tard.
Non, mais qu'est-ce qu'on panique? Eux, les joueurs savent ce qui se passe. Le coach savent ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui va arriver. Un coup d'état ou une engueulade ou un Royal Rumble pour régler tous les maux de l'équipe entre eux. Mais il y a des problèmes.
S'ils sont éliminés contre York.
Ouais.
Parce que, j'ai peur.
Regarde.
J'ai peur des conséquences.
Regarde, il y a deux choses. Il y a trois scénarios. Garde fait les séries. Normalement, on s'attendrait à un nouveau contrat. Garde ne fait pas les séries. Il est pas là. Garde ne fait pas les séries. Égale le championnat canadien.
Ça sauve le.
J'ai dit peut-être il est là. Peut-être il est là. À moins qu'il y ait des critères dans son contrat qu'une activation d'une extension dès qu'il y a un trophée. Peut-être. Ensuite, Garde fait les séries. Égale le championnat canadien. Il n'y a pas de problème. Extension. Tout le monde est content. Il y aura un nouveau directeur sportif et tout le monde sera content. Donc c'est un peu ces scénarios-là assez binaires.
Maintenant, ce qui arrive. Dans ce scénario-là, il y a aussi la forte possibilité que Garde parte de lui-même. Ça se peut, là. C'est pas la première fois, là. Et, à Lyon, il a quitté parce qu'il n'était pas content de la direction du club. Comment que ça se passait. Mm-hmm. C'est de lui-même qu'il n'a pas renouvelé. Bon, Aston Villa, c'est un peu particulier, mais ça a été une entente mutuelle. Donc, c'est pas impossible. Si Rémi Garde trouve, tu sais, il peut. On le voit, là, il est affecté. Il se pose lui-même des questions. Il l'a dit en conférence de presse.
Tout à fait.
J'ai fait des erreurs, j'en fais même beaucoup. Il se rend compte aussi de « Merde, ce que j'ai fait comme schéma, ce que j'ai fait comme décision, ça fonctionne pas, c'était pas la bonne chose. Ce que j'ai fait comme choix de joueur.
Ouais. »
Il se pose des questions. Il peut décider que « Bon, non, je suis pas la personne qu'il faut pour cette équipe. Il y a trop de choses à changer, puis moi, j'ai besoin de réfléchir. » Il peut, si c'est quelqu'un qui semble assez sérieux pour décider de lui-même, OK, non, moi je fais une pause et je me tasse. Ça peut être ça aussi. Là.
Oui, c'est clair, c'est une option qui va être très très présente dans son esprit peut-être. Mais honnêtement, avec l'équipe qu'ils ont, honnêtement, même si ça panique partout, même ça recrute mal, mercato, etc., il y a assez de bons joueurs pour pouvoir faire quelque chose.
Mais moi, ça ne me dérange pas de ne pas faire les séries encore cette saison.
Oh non, Nilton, non.
Sérieux? Non, Sofiane, faire les séries, ce n'est pas le but de ce championnat-là, bordel. Ce n'est pas ça l'objectif, c'est de créer une bonne équipe. Faire les séries, on n'a pas une bonne équipe après tout. Ce qu'il faut faire, c'est de la construire une fois pour toutes. Et c'est que maintenant, c'est qu'à partir de cet été, qu'on a tout ce qu'il faut pour construire.
Oui, mais il n'y a pas de directeur sportif. Donc c'est trop tard, il n'y a pas de directeur sportif.
Il y en a un, c'est faux, il y en a un. Il y a quelqu'un qui s'en occupe, il est en Italie. On va nommer qui? Je m'en fous de la personne qu'ils vont nommer. Là. Le vrai directeur, l'architecte de l'Impact de Montréal est déjà nommé. Là.
Regarde, tu peux faire des moves moyen terme, court terme et long terme, tout en pensant faire les séries. Il y a 12 équipes dans l'Est. 7 de ces équipes-là font les séries. Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux. New England, c'est le bordel. Orlando City, c'est le bordel. Chicago.
C'est terminé, ça. Ce bordel-là est terminé.
Okay, Bruce,
t'as vu de nouveaux joueurs qui sont allés chercher?
Ouais. Il a marqué un beau but.
C'est 10 millions.
10 millions, ouais.
C'est un gars qui réussissait là où il jouait avant.
C'est vrai.
C'est là la clé. On est en train de changer. Je sais que les gens, ça leur dérange de voir un jeune prêté par Bologne, mais le Finlandais qui va arriver à Montréal. C'est dans ce style-là.
Lassie Laipanen.
Va aider le club. C'est un gars talentueux. C'est un gars qui a marqué son équipe, qui est bien vu dans la sélection.
C'est
d'autres genres de recrutement.
Mais tu peux faire les deux, Newton. Tu fais un bon recrutement, tu ramènes Laipanen, quoique ça fait 25 ailiers chez l'Impact, et tu ramènes peut-être un... Ouais, j'espère qu'ils vont chercher un attaquant. J'espère qu'ils vont chercher un attaquant pointe qui a de l'allure. J'espère. En tout cas, vraiment un milieu de terrain d'expérience de haut niveau, je pense, qu'ils vont chercher ce profil-là. Mais tu peux faire tout ça. Chercher du court terme, trade MLS, échange MLS, faire du moyen terme, un joueur sur 2 ans et du long terme, un Vargas, mais qui marche. Comme le gars de New England, comme ce qu'a fait, comment il s'appelle, là-bas, comme Atlanta a fait, mais en low cost, évidemment, parce qu'ils n'ont pas le budget d'Atlanta en termes de transfert. C'est, il peut faire les trois avec une direction claire, en donnant les outils à Rémi Garde pour pouvoir avoir des meilleurs joueurs à sa disposition, tout en pensant à faire les séries. Les deux peuvent arriver en même temps. Heureusement, tu peux faire les deux en même temps. Est-ce qu'il y a assez de temps de le faire maintenant, dès ce mercato-là? J'espère que oui. Sinon, la saison est bouclée. Mais tu peux faire les deux, Newton. Tu peux. Tu peux penser aux séries, objectif tangible, améliorer ton équipe XYZ tangible, mais pas nécessairement 100% parce que tu n'as pas des mesures mises à part la victoire. Mais dans ton jeu, tu développes ça. Parce que Rémi Garde, c'est le bon coach pour avoir un style de jeu spécifique. Même s'il est très défensif maintenant, il aime donner la liberté à ses joueurs offensifs. Il le fait de façon évidente. mais demande des principes de base. Le pressing, défendre, c'est resserrer les lignes, ça c'est classique coach. Okay, c'est pas tout le monde qui est Guardiola, qui est Kovac, qui est Sarri. Il y a des exceptions dans le foot qui font des belles choses. Okay, quand t'as des Ferrari avec toi, tu peux faire plein de choses. En attendant, Garde fait ce qu'il peut. Garde a fait des erreurs claires dans le recrutement, peut-être dans la gestion de certains joueurs, peut-être, c'est très possible. Mais honnêtement, c'est le bon coach pour le faire. Je crois encore en lui. Je lui donne pas une carte blanche, mais je suis pas aveugle pour ne pas voir ce qui fait de mal, en tout cas. Et l'Impact peut faire les deux. Tu peux recruter intelligemment, mais il faut que ça arrive maintenant. Il faut que le réseau Bologne enfin donne quelque chose de bien, de façon au-delà de quelques perles, de quelques trouvailles comme Taider qui vient, Dzemaili et peut-être Laipanen. Il faut que ça continue comme ça. Mais ça demande des profils spécifiques. Et puis il faut encore régler le cas de Jackson et Doruti. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas assez. C'est pas assez en termes de buts marqués. C'est pas assez. Mais quoi que l'Impact a quand même... Non, l'Impact c'est assez. Ouais, c'est 27 buts marqués, c'est assez nul. Ouais, c'est la troisième pire attaque dans l'Est. Après Columbus et Cincinnati. Donc ouais, c'est assez mauvais 27 buts. Là j'ai regardé les Red Bulls 36. L'Impact a marqué 36 buts. Ah non, c'était les Red Bulls. L'Impact c'est 27 buts. Donc c'est ça. Il faut marquer des buts. Il faut, même sans Piatti, il faut marquer des buts. Puis il faut régler le problème de l'attaque. De l'attaque en pointe. Il faut régler ce problème. Tu joues un 4-3-3. Ton attaque en pointe doit être un attaque en pointe qui marque des buts.
C'est un concept vraiment révolutionnaire.
Ni Jackson ni Routy le font systématiquement. Jackson l'amène un peu mieux. Mais honnêtement, c'est fou. Bon, passons aux questions.
Antoine nous pose une bonne question. Rémi Garde s'est dit agacé pendant la conférence de presse que ses consignes n'étaient pas respectées. C'est quoi ses consignes?
Ben, le pressing...
Je sais pas.
Marquage dans la zone, resserrer les lignes,
des classiques. Ça, c'est une belle question. Peut-être que ça va être une autre question qu'il n'aime pas se faire poser. Ça serait une belle question. Tu sais, les consignes sont pas... Mais c'est quoi tes consignes? Tu sais, clairement, es-tu capable de voir... Analyser cette équipe défensivement, c'est facile. Hein? On le voit, là. Il n'y a pas vraiment de pressing. Tu sais, c'est un bloc bas. Ils s'installent dans leur territoire, puis là, les fameux clichés, on resserre les lignes, puis bah, c'est pas clairement... C'est une fois qu'ils gagnent le ballon, c'est pas clairement connu c'est quoi l'objectif de cette équipe.
Je suis pas compétent pour analyser ça de façon tactico-technique. Là. De ce que je vois, c'est un schéma très défensif, c'est le 4-3-3. Et puis avec Taider qui joue dans le haut du 4-3-3, il sait que c'est un joueur qui va couper beaucoup dans l'axe, donc est-ce qu'il s'attend qu'il fasse ça ou pas?
Moi, je les trouve très perdus. Oui. Parce que, tu sais, on a souvent dit que cette équipe, c'était une équipe de contre-attaque, ça n'allait pas du tout parce qu'on joue tout sauf rapidement le ballon.
C'est vrai.
À chaque fois qu'on récupère un ballon, on regarde l'option derrière avant de regarder l'option d'avant. Je sais qu'il y a certains qui sont tannés de l'entendre, là, mais c'est le cas. Là. Regardez les matchs, regardez un milieu de terrain qui gagne un ballon, et prenez le temps de voir c'est quoi sa première prise de décision. Sa première prise de décision, d'information, c'est toujours derrière. Des fois, il y a un couloir devant lui.
Il manque un joueur. Que tu descends Taider ou pas, t'as Piet, t'as Choumi, et toi un troisième milieu de terrain qui est meilleur que les deux en termes de construction de jeu. Maintenant, soit tu investis dans un troisième milieu de terrain, soit tu descends Taider et tu investis dans un attaque en pointe ou un milieu offensif hybride qui peut faire les deux, entre guillemets. C'est pas compliqué. Tu choisis. Est-ce que tu veux que Taider soit un passeur relayeur en profondeur ou qu'il soit vraiment plus haut sur le terrain? Tu l'associes avec un Gignac, j'exagère pour dire. C'est Gignac, tu lui donnes le ballon, il fait ce qu'il veut avec. Il faut faire des choix. C'est pas compliqué. Il faut décider des profils que tu mets pour savoir tes autres pièces, qu'est-ce qu'ils font avec ce Taider. C'est pas que dans le béton qui va rester très haut côté gauche comme un ailier. Tu peux le bouger plus bas. Brownie, c'est un peu plus délicat. Est-ce qu'on le fait dans son milieu de terrain? C'est un autre débat. Choumi, est-ce que je le mets DM, CM, OMF? Tu sais, c'est d'autres débats. Ouais. Mais je trouve qu'il faut ramener des constantes et des assurances dans des postes clés qui te manquent. Il y a un gardien, il y a une défense centrale intéressante, il y a un milieu de terrain défensif. Taider, est-ce qu'il est là ou pas comme milieu de terrain? Je ne sais pas encore. Il te manque un attaquant pointe qui pèse de façon systématique et qui va marquer des buts. C'est pas compliqué. C'est, pour moi, c'est obligatoire.
Là, c'est des joueurs qui sont comme une espèce de liberté qui est laissée à ces joueurs-là. Puis malheureusement, ils n'ont aucune imagination. Ils improvisent, sont individuels.
Ils sont pas assez bons. Je pense qu'ils sont pas assez bons pour faire tout ça. Et il manque l'apport des latéraux.
Il faut un peu plus de structure.
Il manque l'apport des latéraux. Quand Sagna n'est pas là, si c'est pas Sagna qui est là, ou même Rogard qui joue très peu, côté latéraux qui monte, il n'en a pas assez. Il faut que ça monte en latéral. Lovic, il faut qu'il apporte du surplus. Surtout quand on joue un 3-4-3, c'est que tes latéraux doivent monter, doivent faire l'essuie-glace de façon systématique. C'est pourquoi tu fais un 3-4-3. 3-4-3, tu veux bloquer les ailes, tu veux avoir une défense plus dense au milieu, mais il faut que tes latéraux, c'est des ailiers quasiment, qui doivent apporter un surnombre avec tes milieux de terrain. C'est systématique. Et puis, ça, je pense que c'est un problème, ça aussi. L'apport des latéraux, mais je pense que c'est plus une question de performance et d'exécution que vraiment de profil pour le moment. Mais ce qui manque, il manque deux joueurs clés, milieu terrain et attaquant pointe, pour pouvoir ramener cette équipe à un niveau compétitif. On se dit ok, on vise le top 4, on vise du jeu, on a des atouts, parce qu'honnêtement Piatti, je le considère même pas. Pour moi Piatti, il est fini, il est pas là. Sa blessure est trop grave, il reviendra pas. Et s'il revient, il revient quand? En septembre, en août?
Mais là, on parlait peut-être, il n'avait pas abandonné pour mercredi.
En tout cas, importe peu.
Son apport,
Oui, vas-y, excuse-moi.
Oui, mais si on ne le saura pas, dimanche, habituellement, c'est une journée de congé, mais l'Impact a pratiqué au centre Nutrilet, on n'a aucune idée qui était là. Mm. Même si Piatti est en forme, là, il ne débutera pas le match, on oublie La façon idéale de faire rentrer Piatti, c'est qu'on gagne déjà 2-0 contre York, puis on y fait jouer 20 minutes. Mais moi, ce que je vois dans cette équipe-là, c'est que tout le monde joue un peu... Tout le monde a son propre plan d'attaque. Je veux dire, quand je vois un Sagna dédoublé là, sur le côté, là, il est rendu à la ligne du fond, puis qu'il centre, mais que l'avant-centre, il est derrière lui, que l'autre côté, Saphir est pas dans la surface. Je veux dire... Pourquoi il centre Sagna? Parce que dans sa tête... C'est le jeu à faire. Mais c'est juste lui. C'est juste dans sa tête à lui. C'est pas un pattern décidé à l'avance. Je ne vois rien dessiné. Je vois que des gars tête baissée qui déjouent un gars, qui essayent d'en déjouer un autre.
Je vois par exemple
en fin de match, là, oui, c'est la catastrophe. Là, oui, c'est la panique. On essaye de marquer un but. Mais je vois un Omar Brown prendre le ballon dans les pieds d'un défenseur en plein milieu du terrain, puis la monter le plus loin possible pour pouvoir tirer. Ce n'est que ça tout le temps. Oui, on n'a pas les joueurs. Oui, on n'a pas de milieu créatif. Oui, on n'a pas de buteur. OK? Mais merde, c'est pas une raison de ne pas avoir une structure.
C'est vrai,
je ne suis plus capable de voir cette improvisation-là.
Mais Nathan, il y avait des matchs où ça marchait. Ça joue, mais pas des matchs, plusieurs matchs.
Oui, mais on le disait aussi, ce match-là qu'on a gagné de telle façon, si on le rejoue 10 fois, on le perd 8 fois. Malheureusement, on était aveuglés, nous, les joueurs, le staff, on était aveuglés par les résultats de début de saison. Et là, aujourd'hui, on paye le prix parce qu'on n'a pas été assez intelligent pour profiter de cette situation, d'une prise de conscience pour dire « Ok, fine, on est chanceux, on a ramassé tel point, mais si on continue comme ça, on est dans le trouble. » On est dans le trouble parce qu'il est tard. Il est très, très tard pour changer quoi que ce soit.
C'est tard, mais en même temps, il pénalise les joueurs. Orouti, autant qu'on le critique, là, la raison pourquoi il joue pas, c'est qu'il n'y a pas mieux de terrain pour lui apporter le ballon. Puis il fait le travail défensif et offensif pour monter le ballon ou le récupérer. C'est la raison principale. C'est un milieu de terrain qui s'appelle pas Azira et qui monte plus haut. Je te garantis, Orouti serait tout le temps dans la boîte. Ça, c'est clair. Orouti.
Je suis pas d'accord.
Si. Non, c'est clair.
Il est pas là.
Non. Moi, je dis.
Il n'y a pas cet instinct-là. Sofiane, il le fait jamais.
Regarde, il est
limité. Il ne le fait jamais.
Orouti est limité. Mais si tu as un troisième milieu de terrain, qui est un vrai troisième milieu de terrain. Qui joue vers l'avant. Pas nécessairement Pozuelo, mais pas Azira. Azira, c'est remplaçant, était content pour le moment. Okay, c'est un troisième milieu de terrain qui a du volume de jeu. Je te garantis, Oruti serait beaucoup plus en surface. Je dis pas qu'il marque des buts, juste qu'il serait, il serait beaucoup moins, il aurait moins l'air perdu, il aurait l'air moins perdu qu'il est en ce moment, parce qu'il fait trop. Linton, je te dis, Oruti, il a ses propres erreurs, mais le jeu de l'Impact ne l'aide pas. Il ne cède pas lui-même.
Mais il n'y a pas le jeu d'impact.
Non, il ne cède, je suis d'accord. Mais l'impact lui nuit beaucoup plus à Oruti, à certains joueurs, que l'inverse. Ça, je le dis, là, c'est le style. Maintenant, on voit que Rémi Garde, il s'en fout du 4-3-3. Il fait 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2. Donc, il est assez flexible. C'est ça qui est bien. Est-ce qu'il va trouver la bonne formule? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que quand l'impact joue bien, que ce soit contre-attaque ou attaque ou whatever, l'attitude est là. C'est pourquoi il parle de comportement de certains joueurs contre Columbus. Parce que c'est une question d'attitude, une question de caractère. Quelque chose qu'il n'a pas vu depuis les 4 matchs qu'ils ont perdus, ou
ouais,
presque.
Il y a des gros problèmes de concentration.
Oui, il y a ça aussi. Donc, et ça, c'est partie de l'attitude. Et je trouve que c'est ça que Garde décrit. C'est pas juste le talent. Mais ils ont besoin de talent. Ils ont besoin de talent. Tu ramènes Gignac, il ne viendra jamais, parce qu'il ne va jamais quitter le Mexique, même si tu offres beaucoup d'argent. Il faut que tu ramènes des joueurs d'impact. Il faut que tu aies des joueurs d'impact. C'est au lieu de pleurnicher sur Altidore là, qui troll les fans de l'impact et Toronto, les clowns, ils sont méchants. Dépense de l'argent et attaque-les. Tu sais, attaque-les à ta façon. Drogba était là, l'impact faisait peur. Même s'il ne joue pas très bien, il faisait peur. Bon, on a passé 10 minutes sur une question.
Une question. Yann nous demande est-ce que toute l'équipe semble être en froid avec Rémi Garde? Même en début de saison, je sentais que Garde était toujours sur le gun, mais l'esprit d'équipe des joueurs et les victoires ont acheté du temps. Maintenant, j'ai l'impression que les joueurs n'ont plus le respect pour Garde et vice-versa.
Je ne sais pas si c'est un manque de respect, Milton, mais je pense que quand tu gagnes, t'es content. Quand tu perds, t'es pas content. Quand tu perds et que c'est la faute de l'arbitre, t'as quelque chose qui te... t'as un point de ralliement. Quand c'est les charters, le complot de la Ligue, les arbitres, le VAR, la météo, le terrain qui compte toi, c'est facile de trouver un point de ralliement. Maintenant, est-ce que les joueurs et est-ce que le club n'a plus de cible pour, sur laquelle ils pourraient envoyer leur fléchette pour blâmer quelqu'un d'autre? Là, il leur manque des cibles. Ça, c'est clair. Je trouve que c'est un va-et-vient. Je trouve que c'est dans beaucoup de clubs, il y a des ups et des downs qui sont assez réguliers. L'impact n'en est pas exempt. Et puis quand ça gagne, on est content. Est-ce que Garde, il leur casse les 1-1? Peut-être. Trop exigeant, parle trop, gueule trop, je ne sais pas, mais honnêtement, quand ça marchait bien, personne ne se plaignait. Donc je trouve que ça vient avec la défaite et avec l'attitude qui vient avec, je pense.
Être coach, ça demande beaucoup de psychologie, hein? Mm-hmm. Parce que chaque joueur fonctionne, carbure d'une différente façon.
Ouais.
La MLS, c'est encore plus compliqué parce que, et en plus, quand tu as un coach étranger, il n'y a pas de lien entre la culture française du staff et la culture individuelle de tous les joueurs. Il y a des Nord-Américains, où, oui, il y en a quelques-uns qui sont français, qui comprennent un peu plus sur quelle ficelle est-ce que Rémi Garde est en train de faire. Il est latino, tu sais. Peut-être qu'un Omar Brownie voit Rémi Garde, puis là, il dit, c'est fini, tu sais, je veux pas jouer pour ce coach-là, parce qu'il est pas habitué à ce style-là, parce que c'est hyper compliqué, c'est tough. C'est qui doit s'adapter à ce... Tu sais? Idéalement, on va dire, ben, c'est le joueur à s'adapter, tu sais, c'est lui le patron. Mais Garde aussi doit faire aussi un peu de... introspection. Voir que la façon que je communique, par exemple, que je gueule, par exemple, à tel joueur, même le fait d'utiliser le français, ça peut devenir un problème. Il communique, oui, avec le temps, à un moment donné, les joueurs vont comprendre, là, au centre, tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire centre, tu sais, mais c'est une méga tour de Babel, là. Et c'est pas si évident que ça. Ça peut être un choc culturel, la langue peut être un frein, il y a certains trucs que tu... Tu sais, oui, il y a des gars qui vont te traduire, tu sais, oui, sur le banc, il y a quelqu'un qui le traduit, tu sais, mais il y a quand même une limite. Je sais pas, tu sais, on voit ça de très, très loin, là. On voit ça à travers le filtre de la télévision, puis on voit juste un petit bout.
Et avec très peu d'informations, très peu d'insight, puis même, il faut le vivre pour le comprendre.
Mais on voit certains langages corporels, tu sais, on a vu un dialogue quand il sort du terrain. c'est deux Français, mais là, il y avait quelque chose de brisé.
Ouais, mais Diallo, mais... quand il marque contre les Red Bulls, il ne s'est là pas non plus, puis il n'était pas en tabarnak contre Garde. Là.
C'est ça.
Mais... Donc, c'est juste que Diallo est comme ça, c'est tout. Il est comme ça, il n'était pas content contre Garde quand il se fait sortir, ça c'est clair. Puis il y a des conséquences, on l'a vu. Mais à part ça, des conséquences. Je serais pas étonné d'apprendre que peut-être c'était déjà planifié qu'il joue contre New York, donc il allait le sortir anyways. Il se peut, puis on va en rire. Tu sais, je dis ça comme ça. Il faut laisser un petit pourcentage à l'autre option. Non. Ok, yeah. Nettoyons des infos. C'est bon. Voilà, je voulais donner une chance à Garde. Donc là, juste pour dire, c'est que, regarde. La langue, c'est pas une barrière nécessairement. Là. C'est... Les leaders anyways et les piliers de cette équipe-là, ils parlent français, donc eux, ils comprennent. Oruti comprend. Ou pas, je sais pas. Mais la langue n'est pas un problème. On entend aux entraînements, ils parlent en anglais. Faut pas stresser sur la langue, ok? C'est pas pour ça. Pas pour ça, en tout cas. Moi, je trouve que Brownie, c'est beaucoup plus peut-être son indiscipline tactique, le fait qu'il veut faire n'importe quoi, que Garde, lui, il a une structure spécifique dans laquelle il veut que Brownlee reste dedans, oui, c'est clair qu'il y aura un clash, ça c'est normal. Et l'attitude de Brownlee peut-être c'est un millénial pour Garde, je sais pas. Mais tu vois, il n'y a pas de problème avec Okonkwo. Okonkwo, c'est le même âge quasiment, puis il se débrouille très bien. Parce que lui, il connaît l'exigence du haut niveau qui était en Sierra depuis un bout. Donc, c'est des personnages différents, avec des contextes différents. Puis je pense que Brownlee, c'est une pépite d'or, puis il faut vraiment l'encadrer, pour que lui s'encadre lui-même, pour qu'il soit vraiment un très bon joueur MLS. Parce que je trouve qu'il y a vraiment un niveau pour l'être, puis il ne faut pas le gâcher. Que ce soit pour le garder ou pour le transférer dans quelques années ou dans 6 mois, parce que c'est un gros investissement qui serait intéressant.
Mais tu vois, ça, c'est un directeur sportif, technique, appelé comme tu vois. C'est le genre de discours qu'un directeur doit avoir avec son entraîneur.
Oui, en assumant que le joueur a la bonne volonté. Non, c'est le gars, il a une sale attitude, c'est fini, quoi, dans les deux cas.
Oui, parce que Rémi Garde, il va le dire, ce gars-là, je veux pas ça. T'sais, non, je veux. Oui, il est très bon techniquement, mais des gars techniques, il y en a à l'appel. Tu vas me chercher un autre. Ouais. Et c'est là que le directeur technique va dire, attends, là, lui, il fonctionne de telle façon, faut voir si... On est capable de maximiser cet investissement, surtout qu'il a beaucoup coûté cher. Tu sais. Oui, ça peut devenir un joueur intéressant, mais on le voit, là, c'est un Mustang là, sur un terrain. Là. S'il décide de jouer tout seul, s'il décide qu'il est capable de jouer tout seul et de régler une situation tout seul, il l'a déjà fait. Dès qu'il a essayé en MLS, ça lui a réussi. Donc, dans sa tête, il est capable. Mm-hmm. Tu sais, on le voit, là, il a une certaine confiance, arrogance. Il l'a fait contre TFC en Champions League. Il l'a fait à Montréal. Il va continuer tant qu'on ne le prouve pas que c'est peut-être pas son meilleur choix de carrière. Mais est-ce que Rémi Garde est capable, s'il n'y a pas quelqu'un pour le challenger, d'être calmé, pour dire, attends, là, ce que tu es en train de faire à Brownlee, là, tu l'as peut-être déjà fait avec Silva, on ne recommence pas cette erreur-là.
Nathan, ça fait quoi? 4 ans qu'on parle de... 2 ans au podcast, c'est 4 ans dans le Canal C Podcast, c'est sur Twitter et sur canalc.com qu'on dit que la structure technique de l'impact n'a aucun sens par rapport à un club de foot. Et encore moins quand on voit les clubs MLS qui réussissent sur une structure vraiment normale. C'est pas normal que le Benedetto Santis, qu'on n'a pas un directeur sportif, depuis Braz, disons, qu'on n'a pas un directeur sportif à temps plein qui est là pour diriger la philosophie, l'esprit, la culture du club sportivement. C'est pas normal.
Mais il commence à en avoir une. Là, clairement, je pense que j'ai compris à quoi sert. Puis c'est pas être méchant, mais à quoi sert le Duc? À quoi a servi son embauche. Là, le Duc est là pour dire, pour aligner certains recrutements. Pas pour décider, mais pour les aligner. Pour dire, à long terme, là, voici ce qui s'en vient dans l'académie. Allez pas me chercher, mettons, un gardien. On en a 2 bons potentiellement titulaires. Ouais. Donc, non. Tu sais, oubliez telle position. Voici ce qui s'en vient. Là, notre problème, c'est qu'on, mettons, nos avancantes, je pense pas qu'on va être capable de vous en fournir. Donc, si vous trouvez quelque chose au niveau international qui peut faire le travail pendant 3, 4, 5 ans, go! C'est là-dessus qu'il faut travailler.
C'est vrai.
C'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Là, pareil, Vasily, je le sais pas.
Il gère le salary cap, il gère les places internationales, il va gérer aussi et faire le scouting professionnel. Comment ça fit? Il doit faire
Il reçoit les courriels qu'avant Rémy Garde recevait.
Exactement.
Puis là, il va voir Rémy Garde, puis il dit, voici ce qui nous reste comme place salariale, ce qui reste comme allocation, ainsi de suite. En gros, c'est ça.
Oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, mais...
Mais là, ce qui reste à déterminer, c'est le gars qui passe des commandes au recruteur.
Ouais.
Puis qui tranche.
Oui, et qui fait...
Selon moi, la personne qui fait ça, là, ça va être Sabatini, aidée d'un futur directeur régional.
Mais il faut qu'il vienne vite, le directeur régional, mais vite et rapidement, parce qu'on perd du temps, Newton. On perd du temps. On a perdu déjà 6 mois de la saison. Le mercato d'été, c'est maintenant. Si l'impact est en négociation avec des clubs et des joueurs agents libres, il faut que ça s'active au plus vite. Au Cobodon, si Bon le fait pour eux, il faut que ce soit clair. Il ne faut pas que ça mette en danger la saison du club ou son futur. C'est compliqué.
Le fait qu'ils sont allés chercher une place internationale avant Novilo et que maintenant que Novilo est parti, c'est oui, là, ils vont aller chercher 2 solutions offensives. Ouais,
ça, il y a déjà Laipanen qui prend la place de Novilo, puis la nouvelle, ben, c'est pour peut-être un Argentin, un milieu de terrain français peut-être. Pourquoi pas? Parce est-ce qu'ils vont re-signer Savvy Ryder de Jean?
Ah, ça c'est un autre, ça va être un autre débat en fin de saison. Qui on ramène? C'est le même Diallo.
Son contrat à vie à terme. Il avait plein de questions que quelqu'un qui voulait faire un fire sale.
Ça n'existe pas. Malheureusement, on oublie ce concept nord-américain qui n'existe pas en MLS. Il y avait des petits ajustements, mais...
Il y avait Dr. Foot glissade vente de feu à prévoir et ensuite il y avait la question de l'autre fire sale. Vente. En tout cas, je ne trouve plus le tweet de l'autre personne, excusez-moi. Vendre l'an prochain. Je ne trouve pas, désolé.
Il y avait c'est Patrick White, oui, qui nous posait justement. Patrick White nous posait la question si on croyait à un problème Diallo. On l'a déjà un peu parlé. Mais moi, j'ai un peu peur pour l'avenir de Diallo à Montréal.
Ouais, il a fait ses 2 ans, ça a réévalué. Moi, je trouve qu'il fait un bon travail, je l'aime bien. Maintenant. C'est une décision valide qu'il soit, qu'il y ait un bif entre garde ou pas. C'est une décision qui, anyways, elle est. Peut-être, on va arriver à un carrefour, qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, moi, ça ne me dérange pas, là. Nina, que ce soit une décision ou l'autre, c'est plus que légitime par rapport à son âge, par rapport à ce que l'Impact veut chercher ou peut chercher en termes de jeunes défenseurs, je ne sais pas. Tu sais, honnêtement, Raetala, il est bien. Camacho, il est encore là pour un bout. Je trouve que Diallo, il est meilleur que les deux. Je préfère avoir Diallo que Camacho ou Raetala s'il y avait à choisir, ou Cabrera, mais c'est une décision à prendre sur le court terme, parce que c'est par rapport à son âge, il n'est pas si vieux que ça, là. Il a la trentaine, mais il n'a pas 38 ans, donc moi je l'aime bien. C'était Jordan Boucher qui posait, croyez-vous que la direction devrait plutôt dégraisser l'alignement et tourner la page sur le mauvais recrutement, ou bien patcher les trous et continuer d'être aussi serré avec le plafond salarial pour espérer faire essayer? On a répondu en partie à cette question-là. Mais par rapport au dégraissage, c'est difficile. Il en fait avec Novilo pour l'année prochaine, mais pour cette année, son salaire compte et il faut que tu le payes. Donc oui, c'est un début de dégraissage. Maintenant, je pense que le seul joueur qui était problématique, c'était Novilo, je pense.
Ouais, mais le salaire de routier aussi, c'est un problème.
Oui, mais le joueur n'est pas un problème tel quel.
Non.
C'est pas une pomme pourrie, comme on dit en bon québécois.
Non, exact. Mais un buteur d'un but à 1 million, c'est un problème.
Oui. C'est
peu importe comment c'est qui, peu importe d'où il vient, peu importe son drapeau, je m'en fous. Buteur d'un million, ça te scrappe complètement toute l'équipe.
Oui, même avec l'hypothèse que Piatti ait marqué 15 buts. Même avec ça, c'est inacceptable. Mais bon.
Le gros Benji nous demande pourquoi on vend Rémy Garde d'avoir eu des bons résultats avec un effectif si faible alors qu'au fond, c'est lui qui a mis cet effectif en place. Ouais.
Ben oui, c'est le double discours. Est-ce qu'on veut seulement dire le côté positif et quand on ride une belle vague de positif, tout le monde est content, on est un peu sous de bonnes nouvelles, de bons résultats, puis on oublie un peu Oui, il y a qu'un effectif pourri, c'est le coach qui a mis en place 80% de l'effectif, ou du moins qui a approuvé la plupart, même s'il avait les mêmes notés sur certains cas, parce qu'ils étaient déjà là, puis ils n'allaient pas bouger. Mais ça revient à la gestion, ça revient, oui, Camacho, je l'aime beaucoup maintenant, l'an dernier j'avais des doutes, cette année c'est bien, mais ça coûte très très cher. Donc ça te menotte pour chercher d'autres joueurs dans d'autres postes, ou faire des échanges à MLS intéressants. Donc c'est difficile. C'est très difficile. Et je vois pas. Regarde, quand on gagne, tout le monde est content. Personne nous aime, on est la victime, on gagne. Quand on perd, personne nous aime, on est la victime, ben, c'est la faute de l'autre. Quand on perd, et on sait qu'on est nul, comme Garde l'a dit à plusieurs fois durant des grosses défaites, au moins il y a une prise de conscience. Mais en même temps, il faut pas trop prendre en compte ce que les gens pensent. Le gros Benji, même moi, quand tu m'entends, tu m'écoutes ou tu me lis, c'est pas que je dis quelque chose que c'est nécessairement vrai. C'est pas parce que je le dis que j'ai un micro, que j'ai un compte Twitter. Tu peux te dire oui, ben, Sofiane, je l'entends, je l'écoute, je le lis, mais je suis pas d'accord, donc je vais ignorer. Ou je lui dis, je vais exprimer mon désaccord. Mais une mauvaise équipe qui gagnait, ben, peut-être n'est pas si mauvaise que ça. C'est le truc. Et je trouve que c'est ça qui est difficile avec l'Impact, c'est que quand ils gagnent avec l'attitude et le caractère, et quand seulement le résultat compte, quand t'as pas le résultat, ça fait mal. Mais en plus, t'as pas l'attitude et le caractère et les consignes qui suivent avec, ben t'as un Rémi Garde qui fait un rant. Donc, pourquoi c'est mélangeant? Parce que l'équipe, c'est une équipe moyenne, qui a du potentiel à être meilleure, mais ils savent qu'offensivement, ils sont très très limités. Même Azira, il a fait son petit rant après que Toronto a dit qu'offensivement, on est tellement, ben, je traduis ouais, on était tellement mauvais que défensivement on se noie.
Il défendait un peu le rôle de son propre rôle en tant que défenseur. Si on veut la structure défensive, il dit oui, on prend des buts, mais à un moment donné, il faut des buts, gagne, parce qu'on défend 90 minutes, c'est compliqué, tu sais.
Exactement.
On voit que l'équipe, tu sais, justement, il y a Amine qui demande si Rémi Garde a perdu son vestiaire, puis il y avait même quelqu'un qui demandait comment interpréter un peu la déclaration de Rémi Garde. C'est Sébastien qui nous demande il y avait quoi dans les propos d'après-match de Rémi Garde? Est-ce que c'est son départ qui annonce des départs, un message aux joueurs, à Joey? Tu sais, où est rendue l'euphorie pré-saison du vestiaire? On sent que autant Rémi Garde que les joueurs sont en plein doute. Ils cherchent des solutions. Et les solutions, là, tout le monde a sa propre théorie. T'sais, on l'entend, là, Azira dit « Ouais, on prend des buts, mais merde, vous ne nous aidez pas devant. Les occasions, soit elles n'arrivent pas, ou soit quand elles arrivent, il n'y a pas de but. » Tout le monde regarde l'autre, dans le rôle que l'autre va avoir, puis il pointe un peu plus. Il regarde aussi du côté du coach. Parce que le coach, il est censé apporter des solutions. Le coach, lui, il regarde du côté des joueurs puis dit « Ouais, mais vous devez vous responsabiliser, les consignes. » Là, on est en... Je le sens, là. On
est au bout du rouleau?
On est en... Ouais.
C'est le début de la fin. Mais est-ce que c'est une fin inévitable? C'est ça la question qu'on doit se demander.
C'est malheureusement une situation qui était prévisible.
Ouais. Je pense du moment qu'on ne trouve pas de solution, du moment qu'on n'a pas trouvé de solution, on va à l'avant, que Piatti était out pour quasiment la saison, on se dit ok,
ça
va être difficile. Maintenant,
la chance qu'on va avoir,
ça a survécu, mais là, ça commence à faire mal parce que tout le monde rattrape le retard. Est-ce que c'est ça peut-être?
Oui, tout le monde s'équipe aussi un peu partout. Mais moi, ce qui me donne un peu espoir, puis c'est peut-être pour ça que j'ai pas encore taper le hashtag qu'il ne faut pas prononcer.
Non, ce hashtag, il faut qu'on l'approuve ensemble. C'est une décision de groupe, Nilton, OK?
La dernière fois, je l'avais pas demandé ton approbation.
C'est ça que je dis. Tu fais ton brownie, là. Essaie d'être plus un outil, hein?
Moi, ce qui me rassure encore puis qui me donne espoir, c'est contrairement à toi, moi, je pense que Piatti va revenir. Et juste le fait qu'il est là, ça fait comme un reset, le fameux reset là, qu'on aime parler à Montréal, ça fait un petit reset dans la tête des joueurs et ça vient affecter le mental positivement. Et aussi, que Lapalainen arrive à Montréal, ça va faire un petit quelque chose. On va le voir, on va s'exciter, on va le trouver bon comme on trouve tous les nouveaux joueurs bons.
Oui.
Mais ça va calmer un peu. S'il faut qu'un peu de résultats rentrent, tu sais, qu'on passe à travers York, My God, please. C'est, ça devrait calmer la panique un peu. C'est ce qui me laisse encore un peu d'espoir pour le restant de la saison. Parce que autrement, les...
J'avoue que j'ai oublié déjà la Pennine. La scie, là, j'ai déjà oublié. Tant que je ne le vois pas jouer, il existe Pascal. C'est genre, il faut que je le vois jouer pour me dire, OK, il existe vraiment. Mais c'est vrai. C'est un commentaire
positif.
Non,
ça va faire une différence.
Non, c'est vrai. Mais encore une fois, je ne vais pas faire des opinions sur des vidéos YouTube. Je vais attendre. Si Bonneau le trouve intéressant, en plus qu'il est jeune et qu'il est en équipe de Finlande, qui est une petite nation du football, mais il faut avouer, mais c'est mieux que rien. On se dit, il y a espoir. Donc moi, j'attends. Brownie, je sais pas ce que ça va aller. On le voit jouer. Il y a du talent. Le football est en lui. Maintenant, il faut que ça joue mieux. Il faut que ça confirme. Il faut que le collectif soit là aussi. Au service de lui. Et puis lui aussi au service du collectif. Donc tout ça, il y a du positif. Offensivement, l'impact à recruter. Brownie, Lapenen. C'est Lapenen. Lapenen.
On va le savoir bientôt.
Au coco.
Juin.
Au juin.
Bonjour à O.
Juin. Juin.
Ah, ce serait bien qu'on aille chercher un joueur.
Ouais, regarde. Il n'y aura jamais de Portugais qui va jouer à l'Impact. Ok, je partirai.
Pourquoi ?
Je sens qu'ils sont bloqués, man. Il n'y a pas de Grec, il n'y a pas de Portugais. Je sens que les deux sont bloqués.
Je vous promets que s'il y a un joueur à Montréal et qu'il est nul, je vais être le premier à le dire.
C'est vrai, ça c'est vrai. Je l'avoue, oui.
Je ne vais pas le défendre, le joueur. S'il n'est pas bon,
il n'est pas bon, il est out.
Je vais dire qu'il est nul.
C'est probablement un gars de Benfica, en tout cas. Ils sont nuls. Les gars de Benfica, comme dirait un fan de Porto, enfin, je parle de Tony Hilton. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut arrêter ce podcast sur une note terne et triste.
Ouais, je pense qu'on va arrêter là parce que on est en train de tourner en rond sur les pauvres Impact de Montréal.
Mais ce qui est embêtant, c'est qu'on en parle la même chose depuis 4-5 mois. Donc.
Je pensais que tu allais dire. Au lieu de moi, je pensais que tu allais dire Anne. J'ai eu peur. Mais ton feeling pour York, ça va se replacer ou
Ah oui, il joue à la maison, ça va bien se passer.
York gagne, hein, ces temps-ci. Il joue aujourd'hui, je crois.
Mathieu Chouanière, Bahia, Chamicho, mais il est excellent. Ça va gagner. T'as Cabrera qui va jouer, Diallo peut-être. Vraiment, il y a du talent. Il n'y a pas de problème. La CPN n'est pas aussi faible qu'on pense, mais je pense que l'Impact va gérer ça.
C'est fou, parce qu'après le prochain week-end, c'est Philadelphie qui joue à Montréal. Ça ne sera pas facile. Bref, tous les matchs ne seront pas faciles, mais va falloir. Ouais. Ça va être une drôle de semaine, je le sens.
Non, ça c'est vrai, mais ce serait bien de battre Philadelphie. Ça donnerait un boost positif. Mais d'ici là, est-ce qu'au prochain fois qu'on se parle, l'Impact aurait déjà joué Philly. Donc Philly, c'est important qu'il gagne. Tu rattrapes, je dis, tu gagnes des points, t'es content, parce qu'après tu vas te taper Colorado, Chicago après. Donc il faut profiter un peu des matchs à la maison. C'est intéressant. Mais honnêtement, je t'avoue, j'étais un peu déprimé par cet épisode. J'ai pas autant ri que j'aurais voulu rire. Je suis déçu. Bon, on fait un petit tour Netflix. Qu'est-ce que t'as regardé sur Netflix récemment? Ou YouTube?
Oh my God, moi je suis en mode rattrapage un peu. Là. J'essaie de... Tu vois, si j'ai terminé l'avant-dernière saison de... C'est pas Netflix, mais l'avant-dernière saison de Game of Thrones. Donc je suis un peu traumatisé de savoir que Jon Snow a couché avec sa tante.
C'est vrai. Attends, spoiler alert, tout de suite. On va spoiler plein de choses. Ok.
Non, je suis rendu là, là.
Mais c'est acceptable avec les Targaryen. C'est acceptable, c'est normal.
Ah non, là, il a fallu après là, cette saison que j'aille sur Google pour voir un petit arbre généalogique. Là, j'étais confus. Là. Oh, j'étais confus, my God! J'ai compris des choses, là. Wow! Donc, j'ai fini ça. Entre-temps, ah oui, un autre attrapage. Je suis en train de regarder...
Friends!
Shut up! J'ai arrêté juste à temps l'insulte. Breaking Bad.
Ah, ok.
Je suis vraiment en retard, hein. Mais je sais. J'ai encore de la misère à embarquer. Je viens de finir saison 1. Une chance que la fin de la saison 1 était le fun parce que j'allais débarquer.
Non, continue. C'est un rythme lent, mais c'est bien. En parlant de ça, j'ai jamais pu embarquer par manque de temps la série spin-off, là. Qui s'appelle Better Call Saul. Qui est excellente, là, mais juste, j'ai pas pris le temps.
Il arrive quand, lui?
Il est pas déjà sur Netflix.
Non, je veux dire, ce personnage-là. Là.
Il arrive saison 2, je pense.
Ah, bon, okay.
Il est excellent. Mais le personnage, c'est un des meilleurs personnages là. Des séries, moi, j'ai beaucoup adoré. Qu'est-ce que moi j'ai fait à part me perdre sur YouTube, comme d'habitude? J'ai passé du temps à revoir des films que j'ai déjà vus. Je pense que j'avais déjà dit à tout le monde que j'avais fini la saison 3 avec la femme, avec madame de Stranger Things. Ça, c'est bon. J'ai revu Kong.
Ouais, c'est vrai, faut que je me mette là.
J'ai revu Kong Skull Island pour la troisième fois. J'ai aimé. J'ai commencé 15 minutes de Black Hole Apocalypse, j'ai pas eu le temps de continuer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
Dans le fond, à force de revoir le même match de l'Impact de Montréal, tu rendu sur Netflix, t'as pris l'habitude, tu revois quelque chose que tu as vu.
Exactement. J'ai peur de commettre, donc je regarde des choses que j'ai déjà vues. Donc j'ai peur de commettre quelque chose de nouveau, puis me retrouver un peu délaissé. J'ai revu Close Encounters of the Third Kind.
Waouh, ça fait longtemps ça.
Ouais, c'est un film qui a bien vieilli. Ce film a tellement. Je dirais pas traumatisé, là, mais m'a tellement marqué que j'ai décidé de le revoir. Là, parce que à chaque fois que je le revois, je suis tout le temps impressionné. Puis je trouve qu'il est très bien fait. Honnêtement, c'est un excellent film. Donc voilà, Encounter of the Third Kind, Close Encounters of the Third Kind, c'est avec.
C'est à cause de la folie de Area 51 là, que tu t'es mis là-dessus.
Il se peut que Netflix m'a recommandé ça. Un truc que je conseille à regarder, c'est la série de Seinfeld, Comedians in Cars Getting Coffee.
Oui, c'est bien ça.
La saison 6 vient de sortir, je pense, il n'y a pas longtemps. Donc, ça, j'ai hâte. J'ai vu autre chose, mais je ne sais pas pourquoi. Mon Netflix ne me dit pas ce que j'ai vu. C'est bizarre, je vois tellement de choses. Ah oui, j'ai enfin vu The Mechanic. J'ai jamais vu les films Mechanic.
Nope. Aucune idée de quoi ça.
Ok, bravo. C'est un film d'action, là. Moyen, mais le fun. Voilà. Et voilà. C'est excitant, hein?
C'est vrai. Moi, je regarde les autres matchs de la MLS, puis je me dis la même chose. Waouh, c'est excitant.
Arrête de regarder les matchs de la MLS. Tu te fais mal, ok? Ah oui. Est-ce que. Ah, justement, je voulais parler de ça rapidement, ok? On peut faire ça en 5 minutes, ok?
Go.
Est-ce qu'on. Tu sais, il y a une belle vidéo que j'ai pas pris le temps de tout voir là, sur la rivalité Montréal-Toronto, là, qui était sortie juste avant le match. Mm-hmm. Non, mais honnêtement, en termes de rivalité sportive, la meilleure rivalité sportive, on est tous d'accord que c'est El Trafico.
Ouais, ben, c'est quoi, ils se sont organisés en plus, là, ils ont les personnages pauvres.
Exactement, je parle sportif. En termes culturels et aussi sportifs, je pense que Seattle-Portland, c'est assez grand. Oui. En termes historiques aussi, parce que c'est vieux. Montréal-Toronto, on essaie de nous faire croire.
On aimerait que ça soit.
C'est ça. On essaie de la faire croire que c'est là, mais c'est pas encore là. Mais je reviens dessus deux secondes. Mais El Trafico et les FC et les Galaxy, en termes de compétitivité sportive, je parle de talent, de joueurs qui se rentrent dedans, honnêtement, c'est la meilleure de la ligue depuis longtemps. Depuis que je regarde la MLS en 2011, depuis 2011, je trouve que les FC et les Galaxy, en un an, s'est transformé dans la rivalité sportive la plus forte et la plus intéressante de la ligue. Pour moi, il n'y a aucun doute.
J'ai pas compris pourquoi ils ont mis ça vendredi 10h.
Moi non plus.
Pourquoi vous mettez pas ça prime time une fin de semaine, là? Genre le dimanche, pourquoi?
Ils doivent une raison à L.A. Quelle bonne raison. Ils ont probablement battu des records. Ils ont une raison spécifique. Mais honnêtement, ce match était magnifique. J'ai quasiment prévu tout le match. Zlatan est incroyable. Vela aussi. J'adorais comment il a trollé Vela, qu'on lui demandait est-ce qu'il est meilleur joueur à MLS.
Vela, c'est la parfaite victime pour Zlatan aussi.
Oui, puis Zlatan gagne à chaque fois.
En MLS, oui, mais.
Oui, en MLS. Bon, et en Ligue des Champions, c'est la grosse tache noire de son.
Parce qu'on s'entend que si en face il y a un joueur pour lui répondre, on dit pas la même chose. Les discussions sont différentes. Il y a tellement de potentiel.
Ça revient des personnages. Si Altidore joue à LAFC, je te garantis qu'il y aurait un fist fight entre lui et Zlatan. Clairement.
Exactement.
Et c'est ça mon point par rapport à la rivalité Montréal-Toronto. Il faut remercier Altidore qui troll l'impact comme ça. C'est important. Son rôle de vilain est essentiel. À la genèse, parce que je trouve que cette rivalité est un peu morte, à la renaissance de la rivalité Montréal-Toronto à MLS. C'est hyper important. Ce qu'il fait, marquer des buts, faire du trash talk avant, dire que Montréal sont nuls, et ensuite flexer devant les supporters, et ensuite faire envoyer des bisous à ses propres supporters au Stade Saputo, c'est très important. C'est un rôle essentiel pour l'établissement d'une rivalité. Parce que cette rivalité a été sportive pendant une saison et demie peut-être. sur les 8 ans, ou 7, depuis les 7 ans qu'elle existe en MLS, je pense. On est sur une poignée de matchs, de 1. De 2, oui, les séries ont beaucoup aidé, ça c'est clair, ça c'est le point numéro 2. Numéro 3, sport, il faut que les personnalités, la culture d'une rivalité est aussi poussée par les gens. Il faut que les présidents s'envoient des messages, ça va pas arriver. Il faut que les coachs se rendent dedans, peut-être. Mais il faut que les joueurs aient une sorte de... Pas une haine, parce que les haines, tu vois plus ça dans, en dehors de l'Amérique du Nord. Là. Une haine, peut-être plus dans le hockey, le football américain.
Ce que tu es en train de nous dire, c'est que notre recrutement, là, on a besoin d'aller finalement se chercher un leader.
Oui, des leaders, mais aussi, il faut que le club éduque ses joueurs par rapport à ça.
Oui, mais je veux dire, tu peux... Tu peux éduquer tant que tu peux, mais si le joueur que tu vas chercher n'a pas cette personnalité-là, il n'y a rien à faire.
Tu l'inculques. C'est le club à faire ça.
Oui, mais jusqu'à un certain point. Là,
c'est le club. Dire, je te garantis, Lemar n'avait pas la culture de l'Atlético Madrid avant d'arriver à l'Atlético Madrid. Quand il est arrivé, il a changé.
C'est tellement fort autour de lui, là, mais
ça demande des personnes dans le club. C'est pas juste un concept, c'est des personnes qui sont là pour appliquer les règles internes, pour faire vivre la culture. C'est pas juste un bout de papier qui parle les normes du club. Il faut que ce soit à l'intérieur. Quand Bernier était là, il t'expliquait Toronto.
On est trop gentil, on aime ça être gentil en
plus. Non, mais quand Bernier était là, il s'assurait de dire à tout le monde Toronto, on les aime pas. Il expliquait clairement. Oui.
Il n'est pas méchant, Bernier.
Non, il n'est pas méchant, mais il expliquait clairement. Toronto, on ne les aime pas. Bernier, c'est un gars qui est un peu renfermé. Il garde ça en lui. Mais quand il m'y parle, il peut juste dire tout ce qu'il dit devant la caméra. Mais il parle aux autres joueurs. Il leur dit, les gars, c'est important cette rivalité-là. Il faut qu'on le rentre dedans. Suivez mon exemple.
Mais je veux dire, Bradley est venu nous ridiculiser sur le terrain. Jackson Hamel avait une chance là, de dire, c'est chez moi ici, tu ne me parles pas comme ça. Même si tu me touches la tête, c'est toi qui vas tomber avant moi. C'est une personne. Il faut que le joueur possède déjà ce feu-là en lui. Oui. Puis on a un gars qui est comme ça. Là. C'est Saphir Tider. On en a un. Puis là, il a l'air un petit peu pris par ses propres problèmes, si on veut, c'est-à-dire il joue hors position, il essaie de tout faire tout seul. Il faut aller chercher peut-être justement. On se répète à chaque fois, mais ce leader qui était Drogba, on n'est pas obligé d'avoir un Drogba à chaque fois, mais la grosse tête qui fait en sorte que ici c'est ma maison. Puis si tu oses faire le con dans ma maison, là, mais c'est moi, tu vas m'avoir dans ma face.
C'est vrai, mais justement,
en premier, ça va être moi.
Et en disant ça, on se rejoint à 1000%. C'est pourquoi je disais, Altidore, ce qu'il fait, c'est important. Son rôle de vilain, c'est aussi un rôle d'héros pour la rivalité. Parce qu'il aide à l'entretenir. Sinon, on rentre dans la différence. Parce que sportivement, l'impact et Toronto FC, c'est devenu banal. Et ça aide que les deux clubs soient en série régulièrement. Mais ça, c'est faut que tu attendes une année. Une fois par année, il faut que ça arrive. Donc, c'est long. Donc, le jour où LAFC et les Galaxies se rencontrent au final de conférence, je te garantis que qu'il y aura le feu. Donc, c'est une question d'entretenir ça durant la saison un minimum pour que le jour où vous voyez en série.
Qui entretient tout ça?
Qui ça?
C'est les médias.
Ah, mais.
Actuellement, c'est les médias qui doivent l'entretenir. C'est un espèce de rôle que les médias doivent se donner. Malheureusement, peut-être qu'on n'aime pas entendre ça, mais quand ça vire un peu fou à travers le monde dans les rivalités, c'est alimenté à 100% par les médias.
C'est vrai. Il y a beaucoup de contenu autour de ça, mais peut-être pas assez de contenu mesquin. Peut-être les médias, on est trop objectif, on est trop neutre.
Ouais, ben c'est voulu, c'est même désiré. Et si on ose être à l'inverse de cette tendance-là nord-américaine, on se le fait dire tout de suite. Là.
C'est vrai. Bon, ben sur ce, en conclusion ça. Merci Spreaker, merci La Forge du Malte, merci tout le monde d'avoir écouté, merci à nos Patreons, patreon.com/football club, merci Nilton.
Merci Sofiane, et encore une fois, bravo, champion d'Afrique.
Champion d'Afrique.
C'est aux 2 ans la CAN?
Ouais, c'est en 2 ans, c'est beaucoup plus fun. C'est beaucoup plus fun.
Prochaine CAN, c'est où?
En Cameroun, 2021.
Ok.
Should be fun. Moi, je suis Couscous, lui, c'est Péri Péri, et nous sommes le CCPP. Ciao tout le monde, et merci.
Ciao, bonne semaine.
Ciao.
Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.